Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, au micro Isabelle Dupuis. Cette semaine, Escale se préoccupe du problème tragique des enfants et des conflits armés, thème auquel le Conseil de sécurité consacre deux débats par an. Au cours du plus récent, c'est l'impact de l'action des groupes armés non étatiques sur les enfants qui a le plus mobilisé l'attention des 15. Les conflits ont un impact terrible sur les enfants et l'année 2014 aura été particulièrement meurtrière. Irak, Syrie, République centrafricaine, Soudan du Sud, Ukraine, la liste des pays déchirés par la violence ne semble jamais diminuer et les enfants en paient souvent le prix le plus fort. On estime à 230 millions le nombre d'enfants vivant dans des pays ou régions où sévissent des groupes armés et près de 125 millions d'entre eux ont été directement touchés par la violence. Une violence perpétrée en vaste majorité par ces groupes armés non étatiques. Devant le Conseil de sécurité, Leila Zerougui, la représentante spéciale du secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé, a expliqué à quel point la situation est devenue préoccupante.
En ce début d'année 2015, c'est la violence des groupes armés et la brutalité avec laquelle ils traitent les enfants qui constituent notre défi majeur. C'est le cas en Syrie, en Irak, au Nigeria, mais c'est aussi dans d'autres pays. Des conflits récurrents se sont intensifiés et l'expansion des groupes armés prend des proportions inquiétantes. Les groupes armés, se revendiquant d'idéologies extrémistes, s'emparent de vastes territoires, effacent les frontières, utilisent des tactiques de plus en plus brutales et recourent aux technologies modernes de communication pour leurs campagnes de recrutement, mais aussi pour exposer leur brutalité. Comme en témoignent les agissements de Daesh au Boko Haram, les enlèvements de masse de femmes et d'enfants sont en passe de devenir une tactique de guerre utilisée de façon systématique pour terroriser, soumettre et humilier des communautés entières. Les enfants enlevés le sont aussi à des fins de recrutement et d'utilisation pour toutes sortes de tâches, y compris celles de boucliers humains ou par l'utilisation des corps des petites filles pour commettre des attentats suicides. Les enlèvements d'enfants ont toujours été une composante des conflits et une violation sur laquelle nous rapportons chaque année au Conseil. Toutefois, ces enlèvements de masse se sont multipliés dans plusieurs zones de conflit. C'est pourquoi j'invite le Conseil à accorder toute son attention à ce phénomène inquiétant. Les écoles ou les hôpitaux ne sont pas épargnés, comme en témoignent les attaques récurrentes de Boko Haram ou l'attaque en décembre 2014 par le Tahrik-i-Taliban sur une école de Peshawar, attaque dans laquelle 132 enfants ont été massacrés et 133 autres blessés. Mais les écoles ne sont pas seulement attaquées pour tuer, elles le sont aussi pour endoctriner les générations futures et les radicaliser.
Moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai vécu ces affres dans ma propre chair. J'ai encore de la difficulté de trouver les mots exacts pour peindre ces calvaires qui m'ont volé mon enfance.
Junior Nzita Nswami avait à peine 12 ans lorsqu'il a été enlevé de son école par l'Alliance des Forces démocratiques pour la libération du Congo, un groupe armé créé dans le Nord Kivu pour renverser le régime du président Mobutu. Il a fait la guerre pendant 3 ans et a été contraint de rester associé à ce groupe pendant toute une décennie.
Les recruteurs nous ont donné une formation expéditive. On nous a envoyés au front. Nous avons tué, nous avons pillé et détruit des infrastructures utiles à la population. Nous avons fait tout ce qu'on nous a demandé de faire en violant les règles des droits internationaux humanitaires. Nous avons transporté des caisses de munitions. Nous avons marché des milliers de kilomètres à pied avec un seul credo. Il faut tirer sur ce qui bouge, de peur qu'on ne vous tire dessus. Pour nous rendre beaucoup plus aptes à exécuter cette basse besogne, nos recrutés ont réussi à réveiller en nous l'instinct bestial qui sommeillait. À travers les cérémonies magiques, ils nous ont convaincus que nous étions invulnérables, mais la réalité nous a toujours montré le contraire. Beaucoup de mes compagnons d'armes ne sont plus en vie après être montés très haut sur l'échelle de la violence. et le plus dur était de voir les jeunes de mon âge jouer sur un terrain de foot, non loin de la parcelle où je faisais la garde. Et la nuit, pendant que je veillais dans le froid, devant la grille, je revoyais encore l'image de ces enfants qui jouaient et une douleur m'emplissait le cœur. Les yeux baignés de larmes, je me demandais tout bas, « Oh mon Dieu, que j'ai donc fait pour ne pas être moi aussi comme eux ?»
Enfants soldats, je vous raconte au nom de tous les miens, partis sous les bombes, lâchés au milieu des ruines.
Que faire pour mettre un terme à tant de souffrances et sortir les enfants de situations aussi terribles ? Adoption de résolutions, réunions d'experts, création de groupes de travail, le Conseil de sécurité n'a cessé de se mobiliser. Mais pour François Delattre, le représentant permanent de la France, il faut avant tout se montrer plus efficace sur le terrain.
La protection des enfants doit être une préoccupation et une priorité, non seulement dans le cadre des accords de paix, comme au Mali et en RCA, mais aussi en l'absence ou en cas d'échec de négociations de paix. Mais les négociateurs ont plus de poids quand ils disposent de leviers de pression. Il est temps d'actualiser la résolution 1612 en ajoutant l'enlèvement comme une des graves violations déclenchant l'inscription des parties sur cette liste d'infamie. Deuxièmement, nous devons agir à un niveau opérationnel dans toutes les phases du conflit. En amont, les mesures de prévention doivent comprendre des actions d'information sur les groupes armés, à l'école, à la radio, afin de décourager les enfants de les rejoindre. Pendant le conflit, il faut donner les moyens et outils adaptés à ceux qui combattent. Les militaires, casques bleus ou forces de sécurité régionale doivent disposer de stratégies ou concepts d'opération clairs, mais aussi d'entraînement régulier pour agir avec précaution quand ils se heurtent à des enfants combattants. Une fois l'enfant libéré de l'emprise des groupes armés, nous devons faciliter et surtout pérenniser sa réintégration au sein de sa famille et de sa communauté. Nous devons approfondir nos actions sur le plan juridique. La lutte contre l'impunité demeure indispensable pour décourager et empêcher les violations graves par de nouveaux acteurs. Je veux souligner le message envoyé par la Cour pénale internationale, dont le premier jugement a reconnu Thomas Lubanga coupable des crimes d'enrôlement et de conscription d'enfants de moins de 15 ans.
Parmi les mesures préconisées, Leïla Zeroughi mise en outre sur le lancement d'un dialogue constructif avec les groupes armés. Et ce sont souvent les ONG qui effectuent ce travail sur le terrain. Mais la tâche n'est pas toujours facile, comme l'a expliqué devant les 15 Julie Baudin, conseillère en protection de l'enfant pour l'OMG Save the Children en République centrafricaine.
République centrafricaine, nous sommes confrontés à de multiples groupes armés ayant de faibles structures de commandement et de connaissance des normes internationales. Dans ce contexte, il n'est pas évident d'obtenir des accords formels avec les leaders. De ce fait, Save the Children a adopté une approche au cas par cas qui lui a permis d'instaurer un dialogue avec une vingtaine de commandants anti-Balaka afin de gagner leur confiance. Cela a aussi été l'occasion de présenter les principes humanitaires et de protection de l'enfance en vue d'obtenir leur libération. Depuis novembre 2013, plus de 800 filles et garçons ont été libérés grâce aux interventions de Save the Children et d'autres organisations. Toutefois, lorsque les Nations Unies ne peuvent pas intervenir auprès des groupes armés, elles devraient soutenir d'autres approches. Les engagements obtenus auprès de groupes armés non étatiques par les ONG internationales, tels que l'Appel de Genève ou par des organisations nationales, peuvent permettre la protection immédiate des enfants. Ils peuvent également servir d'étape intermédiaire dans le cadre de plans d'action. C'est pourquoi Save the Children appelle les Nations Unies à renforcer leur coopération avec les acteurs non gouvernementaux de protection de l'enfance pour élaborer des stratégies coordonnées pour atteindre cet objectif commun, prévenir et mettre fin aux graves violations commises contre les enfants par les groupes armés.
Plus le temps de sourire, la fatigue prend le devant. Les crises de rire appartiennent à un autre temps. Les années filent, filent, filent.
Parmi la multitude de tragédies individuelles, la situation des filles enlevées ou enrôlées est particulièrement complexe. Souvent cachées, elles ne sont pas toujours considérées comme faisant partie du groupe. D'où l'importance d'élaborer des stratégies spécifiques pour leur venir en aide. Leïla Zeroughi.
Dans pratiquement toutes les situations ou conflits, les filles sont trop souvent les victimes de l'ombre. Elles subissent les mêmes sévices que les garçons, mais aussi des violences qui les affectent parce qu'elles sont des filles. Elles sont violées, mariées, entre guillemets, à des membres de groupes armés ou forcées à l'esclavage sexuel. Leur droit à l'éducation leur est refusé. Des progrès ont certes été enregistrés, mais beaucoup reste à faire pour répondre efficacement aux difficultés, à la complexité des situations auxquelles les filles sont confrontées.
Pour Junior Nzita Nswami, le calvaire a pris fin en 2006 lorsqu'il a pu rejoindre un programme de démobilisation, de désarmement et de réintégration créé par la Commission nationale du désarmement et de la réinsertion de la RDC. Celui-ci lui a permis de se réarmer moralement et de tourner la page sur son passé. Grâce aussi aux études qu'il a pu suivre, Junior Nzita Nswami affirme aujourd'hui avoir repris le contrôle de sa vie et vouloir se battre jusqu'au bout pour combattre le recrutement d'enfants. Il a créé l'ONG Paix pour l'enfance et est ambassadeur de bonne volonté pour plusieurs initiatives de lutte contre le recrutement d'enfants soldats, à commencer par la campagne de l'ONU « Enfants, pas soldats ». Au micro de Priscilla Lecomte, il appelle à plus d'action encore.
Notre message aujourd'hui au sujet des enfants soldats, nous voudrons que la communauté internationale et la communauté locale aussi, qu'ils prennent conscience, qu'ils prennent des engagements à protéger des enfants, pour qu'ils comprennent les enfants souffrent. Il y a des enfants qui sont utilisés comme des chairs à canons et il y a une nécessité pour soutenir ces enfants. Et aussi pour ces enfants qui sont associés dans des groupes armés, le message que nous apportons aujourd'hui auprès de la Conseil de sécurité, qu'ils comprennent que ces enfants, ils ont besoin de leur soutien. Et lorsqu'ils interviennent pour ces enfants, ça sera un service utile qu'ils vont rendre dans la société en général.
Vous-même, vous êtes un exemple de cette démobilisation réussie. Vous avez été enrôlé en 96. Ça remonte,
eh bien,
il y a longtemps.
Oui, c'est en 96 que j'avais encore 12 ans. Et aujourd'hui, je suis dans les trentaines.
Comment ça s'est passé? Vous avez été arraché à votre école, à votre famille, à votre village en une seule journée?
Oui, j'ai été arraché dans le milieu de mon instituteur. Voilà, et après, on a été appelé à faire la rébellion afin de renverser un pouvoir dictatorial, entre guillemets, qui était en place alors qu'on était encore des enfants. On nous avait engagés dans les conflits que nous, on ne maîtrisait pas. Et voilà, aujourd'hui, on comprend maintenant un peu pourquoi on nous avait associés. C'est ça qui justifie aussi notre engagement pour empêcher ce que nous avions vécu dans notre propre chair, que d'autres jeunes puissent les subir aussi.
Vous avez dit au Conseil de sécurité, on m'a volé mon enfance.
Oui, bien sûr, on avait violé notre enfance parce que moi, je dis toujours que ce soit d'une manière volontaire ou involontaire. Lorsqu'on fait participer des enfants dans les conflits, c'est une enfance volée. Parce que les adultes doivent protéger les enfants. Ils doivent laisser les enfants d'aller à l'école, d'être formés pour préparer un avenir meilleur. Mais si vous prenez les enfants, vous les associez dans les conflits armés ou ethniques, alors ça, c'est une violence grave de la légitimité des enfants.
Est-ce que vous ressentez encore des séquelles de cette expérience difficile que vous avez traversée?
Oui, périodiquement, ça nous rattrape toujours. On fait quand même des efforts fort à surmonter. Ça, c'est pour cela, pendant mon discours, j'ai insisté sur le point qu'un ex-enfant soldat doit être considéré comme la personne qui a des maladies mentales et qui doit être soignée psychologiquement avant qu'il soit réinséré. Et sinon, si on ne tient pas compte de ces traumatismes, et ça peut tourner mal contre la société là où il sera réinséré, parce que cet enfant qui a appris à tuer, il y a tout un procédure aussi pour laver le cerveau de l'enfant qu'on veut réinsérer.
Ça veut dire qu'avant même d'être réinséré, cet enfant, on lui a déjà lavé le cerveau, c'est-à-dire qu'il est toujours dans un système de violence et de meurtre, c'est ça que vous voulez dire?
Oui, bien sûr, c'est une école de la violence qu'on apprend. D'abord, il faut tuer pour ne pas être tué. Et l'enfant qui a déjà appris à tuer, pour qu'il soit réinséré dans la société, on doit leur apprendre d'autres modes de vie et de bonnes manières pour vivre dans cette société, pour qu'il ne reste pas avec ces violences. Et c'est pour ça que j'insiste sur le point de la traitement pour des traumatismes. C'est vraiment important pour les enfants qui sont réinsérés. Et c'est pour ça que même à travers mon discours, j'ai demandé aux Nations Unies qu'ils puissent étudier vraiment des causes qui font qu'on puisse recruter des enfants. Pour moi, j'ai dit que c'est le système qui n'est pas bon. On doit étudier pourquoi on doit utiliser les enfants et la communauté internationale, à travers ses agences, qu'ils puissent trouver des stratégies pour qu'on évite ces utilisations des enfants dans les différents conflits. Et peut-être si on fait les études sur le système qui fait qu'on puisse utiliser les enfants, ça peut être très efficace par rapport au travail qui se passe sur le terrain. Ça peut aussi nous permettre à réduire le compteur à zéro, celui de la participation des enfants. Les conflits armés.
C'est possible à votre avis, vous qui travaillez sur le terrain au quotidien?
Mais vous savez, lorsqu'il y a la volonté, rien n'est impossible face à la volonté.
J'en ai marre. J'en ai marre de porter les armes. J'en ai marre de faire couler le sang et les larmes.
Et c'est avec l'appel de Junior Nzita Nswami que se referme ce magazine Escale. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet et les podcasts, les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien de la Radio des Nations Unies en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous la semaine prochaine.